Comment faire pour réduire la hausse des réchauffements climatiques à 1,5 degrés Celsius, sachant que nous avons déjà gagné 1 degré par rapport au 19e siècle? Comme les participants à la COP24, François Normand, spécialiste en géopolitique du journal Les Affaires, s'est penché sur la situation dans cet épisode de Zoom sur le monde. Bonjour François.
Bonjour Catherine.
D'abord, quelles seraient les cibles à atteindre pour réussir à ne pas dépasser ce seuil de 1,5 degrés Celsius?
Les cibles sont très ambitieuses, Catherine. Je ne sais pas si tu te souviens, le GIEC, qui est un organisme de l'ONU, il y a environ un mois, a publié un rapport qui disait, grosso modo, qu'il faut réduire nos émissions de 45 % d'ici 2030 par rapport à nos émissions actuelles. Donc, c'est une grosse commande. C'est en 12 ans qu'il faudrait faire ça. Et si on ne le fait pas, à l'heure actuelle, on se dirige vers une hausse de 3,2 degrés. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument réduire nos émissions de 45 %. Est-ce qu'on peut y arriver? C'est la question.
Puis de quelle façon on peut réussir à réduire ce montant-là?
Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Par exemple, le GIEC nous disait qu'il faut un régime énergétique, donc réduire notre consommation d'énergie, surtout réduire la consommation d'énergie fossile, éliminer le charbon, retirer la moitié des voitures des routes dans le monde. Et ça, juste petite parenthèse, dans un contexte où il y a 80 millions de voitures qui arrivent à chaque année sur le marché. Tu vois l'enjeu. Après ça, il faudrait construire notamment 38 réacteurs nucléaires, installer 1,5 million de nouvelles éoliennes dans le monde et surtout, ça va faire sourire, retirer le tiers des vaches en circulation parce qu'elles émettent beaucoup de méthane, nos vaches. Donc, voilà à peu près ce que propose le GIEC. Donc, tu vois que c'est un régime énergétique corsé, ambitieux et surtout sur une fenêtre de 12 ans, c'est ça le défi.
Certains proposent de mettre en place des taxes à la consommation pour réduire l'émission de gaz à effet de serre, mais c'est pas tout. Il y a aussi la possibilité de mettre en place des plafonds pour réduire cette production-là.
Oui, parce que, comme tu dis, on impose des taxes sur le carbone un peu partout dans le monde. Ça donne plus ou moins des résultats. Et là, il y a des gens qui proposent de... Pourquoi on met la taxe sur le carbone? D'une part, c'est pour limiter la consommation de ressources naturelles, incluant les énergies fossiles. Des plafonds, ce serait des plafonds d'émissions, pas d'émissions, des plafonds sur la consommation de ressources. Là, tu as notamment un économiste, Daniel O'Neill, de l'Université of Leeds au Royaume-Uni, qui propose d'imposer des plafonds sur la consommation de ressources. Là, c'est comme des espèces de quotas, là. Et là, tu vois déjà dans l'enjeu politique, là. Disons qu'on dit que le quota, je dis n'importe quoi, c'est 50 milliards de tonnes de ressources par année. Là, il faudrait se partager ça dans différents pays en fonction de la taille des économies. Est-ce que les États-Unis respecteraient ce quota-là? Est-ce que la Chine le ferait? Tu vois, c'est déjà compliqué de mettre des quotas, mais l'idée circule. Est-ce que c'est réaliste ou réalisable? On verra bien.
Puis, si jamais on ne fait rien, qu'est-ce qui nous attend exactement? Parce qu'on on semble dresser un portrait qui est très sombre là, de la situation.
À vrai dire, il y a des coûts économique et politique à ne pas lutter efficacement contre le changement climatique. Je te rapporte les chiffres d'une étude là, qui a sorti récemment aux États-Unis, une étude du National Climate Assessment qui dit que dans la décennie 2090, donc près de la fin de ce siècle, aux États-Unis seulement, l'impact du changement climatique, ça va être 500 milliards de dollars US par année. Ça, c'est l'impact sur les coûts économiques du changement climatique. C'est sûr que l'économie américaine, dans les années 2090, ça va être beaucoup plus grande que maintenant. Donc, ce 500 milliards-là, il faut le mettre en perspective avec la taille future de l'économie américaine. Néanmoins, c'est quand même des gros chiffres, 500 milliards de dollars US par année. Et l'autre risque, c'est un risque géopolitique ou politique. Et là, ce n'est pas des groupes de gauche qui vont te dire ce que je vais te dire. C'est un rapport du ministère de la Défense américain qui a mesuré l'impact du changement climatique sur l'armée américaine, ses approvisionnements, mais aussi sur la société en général. Est-ce que ce rapport prévoit, rapport qui a été publié en 2014, une augmentation de l'instabilité politique et surtout un risque accru de conflits à cause des sécheresses et des migrations de réfugiés climatiques dans le monde? Donc, le changement climatique, tu le vois bien, impact économique, mais aussi impact politique, parce que ça risque de créer de l'instabilité. Et là, on peut même imaginer de régimes plus autoritaires pour contenir les populations. Donc, on a tout intérêt, d'un point de vue économique et politique, à lutter efficacement contre les changements climatiques pour limiter les dégâts, alors que c'est encore possible de le faire techniquement.
Merci beaucoup, François.
Merci, Catherine.